Salut à tous, c'est David. Nous sommes le jeudi 15 août 2019. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur la bêta d'iPadOS après plusieurs semaines d'utilisation. Bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pour ma pomme. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast. Comme je viens de le dire dans l'intro, je voulais revenir après quasiment 2 mois d'utilisation de la bêta d'iPadOS sur les avantages, les inconvénients, les petits bugs que j'ai eu, même s'ils sont pas nombreux. Mais voilà, faire un petit bilan à quelques semaines maintenant de l'arrivée de la version finale de toutes les bêtas, que ça soit iPadOS, que ça soit iOS. Je voulais faire un petit bilan de comment s'était passé mon été. En produisant un peu de contenu, en utilisant un iPad tous les jours avec la bêta. Tout d'abord, pour commencer, le point pour moi le plus important dès qu'on passe sur une bêta, la stabilité de l'appareil. Alors, depuis que je suis passé sur la bêta, petit rappel, moi j'ai passé mon iPad en bêta, on était encore à la bêta 3, alors que je répète depuis de nombreux mois, même de nombreuses années, qu'on ne devrait pas installer des bêtas. Surtout si c'est sur un appareil qu'on utilise tous les jours, que c'est un appareil qu'on utilise comme machine principale. Donc voilà, moi je l'ai passé à la bêta 3 et j'ai pas eu de réels gros problèmes avec la bêta tout au long de l'été. À part quelques petits bugs, mais vraiment des petits bugs mineurs qui m'ont vraiment pas empêché d'utiliser l'iPad, tout le reste a pour ainsi dire été vraiment vraiment très stable. Les petits bugs que j'ai rencontrés, alors il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 2 ou 3, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus gênants que d'autres, mais bon, comme je vous dis, dans l'ensemble, rien de vraiment bloquant, complètement bloquant pour l'utilisation. Alors tout au début, quand moi je suis passé en bêta, c'était donc la bêta 3, la première semaine ou les 2 premières semaines que j'étais en bêta, j'avais un problème qui était un problème que tout le monde avait, qui avait été relayé par pas mal de sites internet. C'est que j'avais un problème de partage de connexion entre l'iPhone et l'iPad. Alors c'est un problème qui a été résolu à la bêta 4, je crois, ou à la bêta 5, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle maintenant, le problème est totalement résolu. Autre petit bug que j'ai eu, alors c'est un bug que je trouve bizarre, réellement. Et je pense pas que tout le monde l'ait eu parce que tout ce que j'en vois sur le web va plutôt dans le sens inverse de ce que je vais vous dire. C'est que moi, quand j'étais encore sur iOS 12 avec mon iPad, je trouvais que mon iPad se déchargeait vraiment très vite par rapport à la normale. Enfin, par rapport à quand je l'ai eu au début. Et bizarrement, quand je suis passé à la bêta d'iPadOS, le problème s'est totalement résolu les premières semaines. C'est-à-dire que l'iPad, je le chargeais, il tenait très très bien la charge, même si je l'utilisais pas pendant 2-3 jours, je le récupérais, il était encore à 80, entre 98 et 80, 90%, on va dire. C'est-à-dire vraiment la marche normale d'un iPad. Et plus on avance dans les bêtas, je trouve que le problème réapparaît. Alors le problème que j'avais, bien sûr, sous iOS 12. C'est-à-dire que là, je charge mon iPad à 100%, si j'ai le malheur de le laisser, on va dire, 2 jours sur une table basse sans l'utiliser, je vais vite le retrouver à 40-50%. Et justement, dans la normale, plus on avance dans les bêtas, normalement le problème devrait s'améliorer et on devrait aller dans l'autre sens. Alors, je pense clairement que c'est un problème qui est spécifiquement dû à ma machine. Mais bon voilà, je tenais quand même à vous en faire part. C'est un problème que moi j'ai eu, c'est-à-dire que le problème s'était résolu sur la bêta 3 et là plus on avance vers la version finale, plus je reviens au problème initial que j'avais avant de passer à la bêta. Autre petit bug que j'ai eu, quelques applications, mais alors vraiment pas beaucoup, des applications comme Photos qui se ferment toutes seules. Alors que le travail que vous êtes en train de faire dessus n'est pas fini, mais alors c'est pas à chaque utilisation qui fait ça. Donc voilà, c'est pas des problèmes récurrents, c'est des one shot qui arrivent de temps en temps. C'est pas franchement gênant, c'est pas bloquant, mais bon, c'est un problème que j'ai quand même eu, surtout sur l'appli photo. Enfin moi je l'ai remarqué, surtout sur l'appli photo. Mais bon, voilà, c'est quand même un problème, un petit problème que j'ai eu. Donc, peut-être certains ont dû l'avoir aussi, peut-être pas sur les mêmes applications. Moi, je l'ai eu sur l'appli, sur cette appli-là. Autre petit problème que j'ai depuis quelques jours maintenant, pour rappel, là je suis sur la dernière bêta au moment que j'enregistre, je sais plus c'est quel numéro exactement. Depuis quelques jours, j'ai un problème avec ma sauvegarde iCloud de l'iPad. Alors, c'est pareil. C'est un problème que j'avais eu des années précédentes sur d'autres bêtas. C'est un problème qui se règle, c'est un problème qui est récurrent au bêta, j'ai l'impression, et c'est un problème qui se règle au fur et à mesure des bêtas et qui va bien sûr se régler totalement à l'arrivée de la version finale au mois de septembre. Bah, sinon, clairement, moi j'ai eu aucun autre bug à déplorer en 2 mois. Aucun gros reboot de l'iPad. Et ça, c'est quand même bien parce que ce que je lisais sur les premières bêta et même sur la bêta 3, bêta 4, il y en avait certains qui avaient des reboots complets de la machine. Moi, j'en ai eu aucun depuis que je suis en bêta et j'ai une machine qui est dans l'ensemble plutôt très stable, plutôt très utilisable. Alors justement, je vais parler un peu de l'utilisation que j'ai depuis que je suis passé à la bêta. Alors, premier point sur lequel je voulais revenir, je l'avais dit dans un épisode précédent, je pensais qu'une fois passé sur iOS 13, je resterais dans le dark mode, parce que je trouvais, quand j'utilisais ça sur d'autres applications qui le permettaient déjà avant, je trouvais que le dark mode était plus agréable. Et au final, maintenant que c'est implémenté dans la version de l'OS complet, bah, je me rends compte que bah, depuis que je suis sur la bêta, j'ai activé la fonction pour qu'elle s'active justement du coucher du soleil au lever du jour. C'est-à-dire la journée, elle est en mode tout à fait normal, et le soir, elle passe en mode dark. Et dans la durée, je trouve quand même ça un peu plus utilisable. Même si sur certaines applications, je trouvais ça bien, et les applications que j'utilisais en dark mode totalement, j'ai continué à les utiliser dans ce mode-là, c'est surtout des applications où je lis beaucoup mes flux RSS, mes applications pour bookmarker les articles sur le web, les applications où il y a beaucoup de lecture, je préfère les laisser en mode dark, mais pour tout le reste de l'OS, c'est-à-dire des applications comme Rappel, comme Calendrier. Ben dans la journée, les utiliser en mode dark, je trouve pas ça forcément mieux ou moins bien. Enfin, voilà, j'ai préféré activer la fonction pour qu'elle se règle au fur et à mesure de la luminosité. Et c'est très bien comme ça. Autre chose dans l'utilisation de mon iPad. C'est le redesign de pas mal d'apps natives sur l'iPad. Déjà, clairement, l'app photo, j'adore le redesign de l'app photo. Ça ressemble beaucoup plus à ce que pouvait faire Google Photos dans le design. Mais vu que, et je l'avais déjà dit, je n'utilise aucun produit Google, je suis assez content quand même de retrouver une interface similaire dans l'environnement Apple. Parce que même si je n'utilise pas les produits Google, je reconnais évidemment le design de l'application Google Photos qui était beaucoup plus beau, beaucoup plus facile à utiliser que l'application photo avant iOS 13. Autre application, l'application Rappel, je trouve l'interface très agréable, clairement, depuis iOS 13. Mais vu que moi, j'étais beaucoup plus habitué à Things 3 depuis un moment, depuis quasiment un an, bah, j'ai encore beaucoup de mal à m'y mettre, même si je trouve qu'il y a quand même pas mal de ressemblances entre Things et l'application Rappel d'Apple. On voit qu'Apple veut aller dans ce sens-là. Mais bon, voilà, les habitudes ont du mal à se perdre. J'utilisais Things 3 depuis un bon moment et j'ai encore beaucoup de mal à utiliser l'application Rappel. Même si je l'avais déjà dit, je préfère largement utiliser des applications natives sur mes appareils. Mais bon, voilà, il y a quand même quelques applications sur lesquelles j'ai beaucoup de mal, bah, du fait que bah, je les ai utilisées très longtemps. J'ai pris mon habitude sur ces applications-là. Et donc, c'est assez difficile bah, de tout switcher sur une application telle que Rappel natif de l'iPad ou de l'iPhone. Autre application que je trouve vraiment bien redesignée, même si c'est pas, si on pourrait pas appeler ça un redesign, c'est plutôt de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, c'est l'application Safari. Alors, dans l'ensemble, l'application Safari reste la même, mais il y a quand même une grosse amélioration qui est arrivée sur Safari et que je trouve est vraiment très très bien vue. Et ben, c'est le fait de pouvoir afficher les pages web en version desktop. C'est quand même beaucoup plus agréable pour la lecture. Il y a certaines pages web, genre les Google Docs, genre l'application WordPress, qui est quand même beaucoup plus utilisable en version desktop, pardon. Donc voilà, c'est pas des grosses améliorations, mais c'est des améliorations qui sont bonnes à prendre parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser, c'est beaucoup plus agréable. Donc on va pas s'en plaindre. Dernière application, c'est l'application fichier dont je voulais vous parler. C'est certainement l'app dont j'attendais le plus avec l'app photo, mais l'application fichier quand même un peu plus. Il y a énormément de nouvelles fonctionnalités dans l'application fichier qui sont arrivées, dont une qui est due au fait de pouvoir brancher des disques durs, chose que je l'avais répété, j'attendais depuis énormément de temps. Mais le fait de pouvoir brancher ces disques durs sur un iPad et d'avoir une source de stockage externe comme ça, ça devient très très utilisable en production de contenu sans avoir à passer par toute application tierce. Justement, le fait de pouvoir brancher un disque dur, si vous faites pas mal de montage vidéo sur iPad, notamment avec LumaFusion, qui d'ailleurs, je le rappelle, a reçu une très très grosse mise à jour ces dernières semaines, qui maintenant est clairement très utilisable et qui arrive presque à un niveau d'une bonne application de montage sur desktop. Ou même si vous faites pas mal de retouches photo, ça devient clairement un game changer. Parce que l'iPad peut être utilisé vraiment tout seul en production, même quand vous n'êtes pas chez vous, sans avoir un ordinateur à proximité. Et clairement, ça change tout. Le fait de pouvoir stocker ses rushs quand vous filmez des choses, pouvoir stocker ses photos pour ne pas avoir à stocker tout sur votre iPad et à perdre du stockage interne de l'iPad. Parce que il y a certaines, moi j'ai un iPad qui a assez de stockage interne, mais bon, il y a peut-être des personnes qui ont des iPads avec des stockages beaucoup plus restreints. Et le fait maintenant sur iOS 13 ou sur iPadOS de pouvoir brancher ces disques durs en externe, ça change tout clairement. Alors autre petite chose comme ça que j'ai trouvé assez agréable avec le temps à l'utilisation d'iPadOS, c'est le fait d'avoir tous ces widgets sur la page d'accueil. Apparent, ça peut paraître un gadget pour pas mal de monde, mais clairement c'est un outil qui s'avère plutôt utile avec le temps, de pas avoir à rechercher tout un tas de widgets, ça dépend lesquels vous utilisez, mais le fait de pouvoir les avoir tout le temps sous les yeux quand vous êtes sur votre page d'accueil d'iPad, clairement je trouve que c'est assez utile. Moi j'ai des widgets pour dossiers, pour mes notes. Et de pas avoir à aller les chercher, de les avoir directement sous les yeux quand je suis sur mon iPad, clairement je trouve que c'est un gros changement et que ça me permet de mieux utiliser mon iPad. Et autre chose que je trouve très agréable avec le temps, et ça découle un peu de ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est le fait de pouvoir mettre plus d'apps sur la page d'accueil. Alors justement, on pourrait croire qu'on pourrait mettre moins d'apps du fait qu'on affiche maintenant les widgets ou qu'on peut les laisser afficher du moins tout le temps. C'est pas une obligation, bien sûr. Mais on aurait pu croire, bien sûr, que le fait de pouvoir afficher ces widgets, on aurait moins de place sur l'écran d'accueil. Eh ben non, Apple a prouvé qu'il pouvait mettre plus d'applications. Et je l'avais dit dans un épisode précédent, je trouvais que c'était un gros problème. Je trouvais qu'il y avait énormément d'espace perdu sur les pages d'accueil, enfin ou du moins sur toutes les pages de l'iPad. Et là, c'est quand même beaucoup plus resserré. Vous vous rendrez vite compte que vous aurez beaucoup, si vous mettez tout sur la première ou même la deuxième page de l'iPad, vous aurez beaucoup moins à scroller dans les pages pour retrouver une application. Alors, ça c'est une chose, même si moi je, de plus en plus, je commence vraiment à prendre l'habitude d'utiliser Spotlight et je trouve vraiment que c'est une fonction qui existe depuis énormément de temps sur iPad, mais que je n'utilisais pas assez. Et je trouve que c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intuitif pour rechercher quelque chose. Quand vous avez quelque chose à rechercher, une application, un fichier, un dossier ou quoi que ce soit, eh ben, l'application Spotlight ou l'application recherche en français sur l'iPad, bah, clairement, ça vous permet de ne pas avoir à scroller, à rester sur votre page d'accueil et à avoir accès un peu à tout ce dont vous avez besoin. Et c'est une utilisation que j'ai de plus en plus. Alors c'est pas inné au fait d'iPadOS, mais le fait de tout l'ensemble d'iPadOS fait que ben je commence à réutiliser des choses qui existaient déjà avant, mais qui deviennent plus intuitives, plus faciles à utiliser. Et clairement, c'est une bonne chose. Clairement, bon, voilà, j'ai fait un peu le tour des petites choses que je trouvais bien sur iPadOS. De toute façon, là, tout au long de l'été, j'ai fait quelques petits articles sur le blog et je vais sûrement continuer à en faire jusqu'à la sortie officielle de l'OS en septembre. Mais bon, voilà, je suis revenu à peu près sur toutes les choses qui, moi, dans mon processus de création, que ce soit pour le blog, pour le podcast ou même pour ma retouche de photo, sur les choses qui m'était utile, que je trouvais vraiment intéressant dans l'OS. Il y en a énormément d'autres. Il y en a qui que j'ai pas listé là, qui seront vraiment beaucoup plus intéressants pour d'autres personnes qui font d'autres choses sur leur iPad. Mais bon, voilà. Moi, je suis revenu un peu sur ce qui m'était cher au niveau des fonctionnalités que j'utilisais et ce que je trouvais assez important. Donc, vous l'aurez compris, même si j'attends avec impatience la sortie officielle dans le courant du mois de septembre, je suis déjà super content avec les bêtas. Depuis la bêta 3, j'ai pas eu de problème à part les petits bugs que je vous ai listés au début. Je trouve ça clairement très utilisable et clairement, mais vraiment clairement, l'iPad devient une très 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 bonne machine de production. Si vous voulez pas vous encombrer d'un ordinateur ou si vous avez un iPad ou si vous comptez acheter un iPad. Parce que ben vous préférez l'iPad ou vous n'avez pas les moyens, même si maintenant l'iPad Pro a le prix clairement d'un petit MacBook. Mais si vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie de vous acheter un ordinateur et que vous préférez vous tourner vers l'iPad, ben, ça devient clairement une vraie machine de production. On peut clairement tout faire et sans me lancer des fleurs, je le prouve assez souvent. J'enregistre ce podcast sur l'iPad. Je tiens le blog sur l'iPad. Toutes les photos ou toutes les vidéos que je sors, bon, alors les vidéos, c'est plutôt des vidéos que familiales, mais tout ce que je produis sort de l'iPad et c'est tout à fait possible. Je n'ai plus besoin d'ordinateur depuis quasiment 2 ans pour quoi que ce soit. Donc voilà, c'est clairement très utilisable et possible de n'utiliser qu'un iPad en production de contenu. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, pour mon petit retour sur le nouvel OS de l'iPad. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, tous les liens pour me joindre sont dans la description de l'épisode. Si vous êtes en vacances, eh ben, je vous les souhaite très bonnes. Si vous avez déjà repris le travail, eh ben, courage à vous. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. Ciao! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller sur iTunes ou sur toute autre application de podcast pour lui mettre une note ou des étoiles. Ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.